Chapitre 30. La face cachée de la lune. Chacun de nous est une lune, avec une face cachée que personne ne voit. Mark Twain. Lower East Side, 8h du matin. Jonathan glissa la Smart entre deux voitures, perpendiculairement au trottoir, et descendit la Bowery jusqu'à la deuxième rue. Après avoir longtemps été un quartier mal famé, le Lower East Side passait aujourd'hui pour l'un des endroits les plus tendances avec ses petits cafés et ses restaurants branchés. Jonathan poussa la porte du Pills, son endroit préféré pour prendre un brunch. Le lieu était authentique et dégageait une vraie chaleur. Bondé entre 11 et 13 heures, il était plus calme le matin. Jonathan chercha Madeline au milieu de la salle baignée de lumière. Autour d'un long comptoir en bois clair, une clientèle bohème et trendy dévorait des pancakes à la banane en buvant des cappuccinos. Madeline n'était pas là. Déjà, il s'inquiétait. Peut-être regrettait-elle leur étreinte de la nuit. Peut-être était-elle repartie sur un coup de tête, peut-être. Son téléphone vibra. « Je suis à l'étage », annonçait un SMS. Il leva les yeux et la vit, penchée au-dessus de la rambarde, lui faisant un signe de la main. Rassuré, il grimpa l'escalier pour la rejoindre à sa table. Murs blancs et parquet blond, grande baie vitrée, lampadaire design, la pièce était agréable. « Tu es là depuis longtemps ?» Il n'osa pas l'embrasser, bien qu'il en ait très envie. Elle portait un jean et une veste de cuir cintré qu'il ne lui connaissait pas et qui soulignait sa minceur. « Je viens d'arriver. C'est sympa ici. Où étais-tu ? » ? « Chez mon ex-femme, je te raconterai », assura-t-il en s'asseyant en face d'elle. Madeline afficha un air dégagé. Pourtant, elle le contemplait tristement, comme s'il s'était déjà perdu. Jonathan essaya de lui prendre une main, qu'elle retira. Leurs regards se croisèrent, le silence se prolongea. Madeline, délicatement, glissa finalement ses doigts dans les siens. À présent, il était clair qu'ils ressentaient plus qu'un simple désir l'un pour l'autre, même s'ils n'étaient pas encore prêts à qualifier d'amoureuse la relation qui les unissait. Lunettes de geek, chemise à carreaux et moustache à la gauloise, un serveur au look hipster s'approcha pour prendre leur commande. Jonathan parcourut le menu et choisit un expresso et un monkey bread. Madeline opta pour un blueberry cream cookie et un verre de lait. « J'ai emprunté quelques vêtements à ta copine. Ils sont un peu cintrés, mais ils te vont bien. Et ce n'est pas ma copine. Des nouvelles de Jim ?»« Aucune, » répondit-elle en s'assombrissant. « Son portable est toujours sur répondeur. Je vais appeler directement le commissariat. » Tandis qu'elle composait le numéro, Jonathan jeta un coup d'œil à l'exemplaire du New York Post qu'un client avait abandonné sur la banquette. Le journal revenait en une sur l'affaire dont il avait entendu parler à la radio. Ouverture du procès de l'héritière d'un cartel de la drogue. Le procès de Jezebel Cortez s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour spéciale de Californie. Surnommée la Muñeca, elle est la fille du défunt Alfonso Cortez, un des chefs historiques d'un puissant cartel mexicain abattu par un gang rival en mars 2001. Installée à Los Angeles sous une fausse identité, Jezebel Cortez a été arrêtée il y a 3 ans alors qu'elle faisait du shopping sur Rodeo Drive. L'acte d'accusation lui reproche notamment le contrôle de plusieurs filières d'exportation de la cocaïne vers les États-Unis ainsi que la mise en place d'un vaste système de blanchiment d'argent. Son procès a été plusieurs fois reporté, les avocats de la Muñeca exploitant le moindre vice de forme juridique. Il s'interrompit dans sa lecture dès que Madeline réussit à joindre le commissariat de Manchester. Elle avait contacté son ancien partenaire, mais c'était le détective Trevor Conrad qui lui répondit.
« Madeline, ça me fait plaisir de t'entendre.
Je cherche à joindre Jim depuis hier soir. Il est dans les murs ?» Au bout du fil, le policier marqua un long silence avant d'avouer.
« Jim est mort, Madeline. »«
Comment ça ? Il m'a appelé il y a 2 jours. »«
Je suis désolé. On l'a retrouvé ce matin dans son bureau. Il s'est suicidé. »
Madeline leva des yeux incrédules vers Jonathan en articulant silencieusement le mot « mort ». Sidéré, il se rapprocha d'elle pour suivre la conversation. La jeune femme cherchait à en savoir plus. « Attends, Le Jim que je connais n'est pas le genre de type à se foutre en l'air. Il avait des problèmes perso?
Je ne crois pas.
C'est arrivé comment, Conrad?
Le policier mancunien hésita à répondre.
L'enquête est en cours, je ne peux pas t'en révéler davantage.
Ne joue pas au con. Jim a été mon coéquipier pendant 6 ans.
Un nouveau silence.
Je te rappelle dans 5 minutes.
Annonça-t-il avant de raccrocher. Sous le choc, Madeleine se prit la tête entre les mains. La mort foudroyante de Jim fit rejaillir un bouquet d'émotions et de blessures. Elle les repoussa vivement pour ne pas entamer sa carapace. Sonné par la nouvelle, Jonathan était désemparé. Il tenta un geste tendre, mais Madeleine s'était refermée. Conrad va certainement me rappeler depuis son portable ou d'une cabine. Tous les appels du commissariat sont susceptibles d'être enregistrés. Il ne veut pas prendre de risques, j'imagine.
Tu ne crois pas à la thèse du suicide ?
Je ne sais pas, avoua-t-elle.
Après tout, tu l'as vu plus récemment que moi.
Jonathan se remémora sa rencontre avec le policier et tenta de restituer ses impressions.
Il était fatigué, irritable, totalement passionné par l'enquête sur Alice Dixon et pressé de mener de nouvelles investigations. Mais le suicide est un geste mystérieux, difficilement prévisible ou repérable. Et je suis bien placé pour le savoir.
Le portable sonna. C'était Conrad.
Bon, que veux-tu savoir ?
Demanda le flic.
Comment ça s'est passé ?
Jim s'est mis une balle dans la tête, dans son bureau, vers 4h30 du matin.
Avec son arme de service ?
Non, avec un flingue non répertorié.
Et tu ne trouves pas ça bizarre ?
Tu m'emmerdes, Madeleine.
Tous les flics qui se suicident se butent avec leur arme de service.
Pas tous,
répliqua Conrad.
J'en connais une qui s'est pendue dans son salon.
Le coup était inattendu, mais Madeleine ne se démonta pas.
Dis-moi plus sur cette arme.
Un Beretta 92 équipé d'un silencieux.
C'est surréaliste. Lorsque tu décides de te mettre une balle dans la tête, tu te fous pas mal de réveiller les voisins. Et je suis bien placé pour le savoir,
faillit-elle ajouter.
Si on va dans ce sens, il y a un autre détail troublant,
confia le flic.
Dis-moi.
Jim avait son arme dans la main droite.
Putain !
Flaherty était gaucher.
C'est perturbant, mais ça ne prouve rien,
nuança le flic.
Tu te fous de moi ?
Lorsque tu poses le canon sur ta tempe, ce n'est pas du tir de précision. Difficile de manquer ta cible, quelle que soit la main que tu utilises.
Madeleine reprit ses esprits.
Sur quoi travaillait Jim en ce moment ?
Mais Conrad n'était pas disposé à toutes les confessions.
Je t'en ai dit assez, il faut que je te laisse.
Attends. Pourrais-tu me transférer les derniers mails reçus par Jim dans les heures précédant sa mort ?
Tu plaisantes ? Tu n'es plus de la maison, Madeleine.
Jim était mon ami.
Inutile d'insister. Et même si je le voulais, je ne le pourrais pas.
Pourquoi ?
Depuis ce matin, un virus a planté notre serveur et infecté toutes nos bécanes. Personne n'a accès à son ordinateur.
Trouve une autre excuse.
C'est la vérité. Prends soin de toi, Madeleine.